Sur Canal Sud 92.2, c'est Just Jam. On continue
notre aventure. Il faut dire qu'on habite, on habite dans un pays où il paraît qu'il y a une capitale, c'est-à-dire une ville plus importante que les autres.
Ça se voit puisqu'on y met tout dedans.
On y met beaucoup de choses. Non, mais enfin, on est capable aussi de tenir 4 émissions sur un petit village du quelque part d'ailleurs.
Il faudra chercher le village.
On l'invente et puis voilà, puis c'est fini. Et hop, on tourne autour. Donc Paris 2, allez.
Comme cette émission s'appelle Jazz to Jazz, jazz pour démarrer, puis du jazz des années 50.
Oui, là, il y a pas mal de jazz des années de Paris et des années.
De 1957. Et c'est le Reid Rapper Quintet.
Ah, le fameux, donc, tubiste. Oui.
Reid Rapper Quintet, qui featuring John Coltrane. Il l'invite, non?
Featuring, ça veut dire comportant, qui comporte...
John Coltrane.
John Coltrane, carrément.
Qui était par là. Et donc, on va écouter un morceau qui s'appelle Under Paris Skies. Qui peut-être c'est le sous le ciel de Paris, je pense, peut-être, tout simplement.
Sous le ciel de Paris.
Il semblerait qu'il y ait un compositeur qui s'appelle Jean-André Brun et Hubert Giraud. Alors c'est peut-être ça, tout simplement.
Mais ça doit être une chanson, alors.
Oui, mais on va reconnaître le thème, mais c'est pas tout à fait introduit d'entrée. Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est Reid Rapper au tuba, John Coltrane, bien sûr, au saxophone ténor, Gilles Goggins au piano, Spanky de Brest à la basse. Tu connais cela?
Ah oui, Spanky de Brest, oui, bien sûr.
D'accord, ça m'étonnerait. Et Larry Ritchie à la batterie. On écoute Under Paris Skies. John Coltrane, bien sûr.
Mais Reid Rapper, il est aussi connu pour autre chose. Attention, on est en 57.
Il y a un son très très particulier quand même. Et puis le solo de tuba, qui est toujours quelque chose d'assez intéressant.
Eh oui.
We'll be right back. Thank you.
Et voilà, on a reconnu le thème, bien entendu,
oui.
qu'on siffle, que tous les moineaux sifflent.
Sous les ciels de Paris, ou sous les ciels, non, les cieux de Paris, ça n'existe pas, bon.
Et ouais, ça c'est quand même quelque chose de très très connu. Et évidemment, on a entendu le travail, effectivement, très très personnel de Roy Draper. Donc, alors tuba, hein, quand même, c'est ça, c'est étonnant, parce que là...
Quand il n'y a plus de notes, on fait celle qu'on peut.
On fait ce qu'on peut, mais... Et là, j'ai sous les yeux, figure-toi, les tubas du grand chœur, mais c'est de l'orgue. C'est-à-dire que les bâtons, évidemment, hein, de l'orgue, s'appellent aussi les tubas.
Oui.
Donc on appelle tuba, enfin, c'est une embouche.
Tube,
voilà, c'est le tube, tout simplement, le tube, mais portable. En fait, c'est le tuba, c'est l'orgue portable, quoi,
Où
il y a des clés et on peut jouer avec. Et sinon, ben, les grandes orgues, hein, style Van Nevel, de l'église Saint-Eustache à Paris, par exemple, on va peut-être en passer un extrait tout à l'heure.
Ah
mais
bon
là, oui, on va voir. Enfin bon, on va voir. Alors là, bon, Paris, c'est quoi? La Tour Eiffel, le Louvre? Allez, en deux mots, bon, eh ben moi j'ai un album, en tout cas des musiques de films sur tous les films de Nicolas Philibert, et notamment Nicolas Philibert, il a fait des films, et un qui s'intitule La ville Louvre, et ça c'est, il s'était intéressé, c'est assez marrant, hein, que se passe-t-il au musée du Louvre quand il est fermé au public ? Évidemment, on croit qu'il y a toute une vie derrière, et la ville Louvre, c'est pas un film d'art, non, c'est pas non plus simplement un petit reportage sociologique. Il a fait vraiment une histoire à partir d'un matériau vivant. Et là-dedans, bah, toutes les musiques de films de Nicolas Philibert, c'est Philippe Hersan, qui est un compositeur de musique contemporaine bien connu. Et il a sorti, donc il y a un album qui sort toutes les musiques, donc pour films de Nicolas Philibert. On va écouter donc une partie de la ville Louvre, et pour ceux que ça intéresse, il y a Laure Adler qui a invité de Nicolas Philibert, et il y a un podcast donc dans Hors Champ, l'émission Hors Champ, hein, sur France Culture, et ça date du 6 avril 2011, Laure Adler reçoit Nicolas Philibert. Donc nous, ça c'est le réalisateur, nous on va écouter le compositeur finalement préféré de Nicolas Philibert.
Philibert ça.
Donc voilà, Philippe Hersan. Alors, on a le choix, The Night Watch, ou alors le Chemin de l'Ange, tiens. Alors le département de sculpture, ça dure que 46 secondes, le 32. Allez, on n'a qu'à écouter le 32 et le 33, parce que ça dure 46 secondes et 1 minute 30. Hein. Donc ça sera une partie simplement. Alors c'est écrit pour un quartet à cordes, un quatuor à cordes, et clarinette et basse clarinette. Voilà, donc c'est tout un album qui sort chez Z, ça s'appelle CEZ, avec Alice Adler au piano. Ne pas confondre avec Laure Adler. Thank you. Voilà, petit extrait vraiment très très court. Si vous aimez, ça c'est de la musique de film, donc de Philippe Hersant. C'est le catalogue Sésame, pour dire c'est sorti. Là, le Sésame, c'est le Sésame 4032, ça veut dire que ça commence à 4000 évidemment. Et il y a. Oui, bien sûr. Et il y a 32. Non, non. Alors, si tu veux savoir, si tu veux savoir les autres, c'est assez marrant quand même. Le 33, 4033, c'est Christian Zanessi. Le 4022, c'est Michel Redolfi. Le 4021, Bernard Parmigiani, question de temps. Et puis il y a Didier Malheur. L'empreinte du vent en 4031, Pierre-André Attané, là que je connais un petit peu moins, les petits bonheurs sur 4030, etc. Donc c'est un label, un catalogue complètement très intéressant. Oui. Hein. Le label Sésame Collection. On en découvre un petit peu tous les jours, mais c'est comme ça. Voilà, ça c'était Philippe Hersant.
Oui, et ben moi je vais passer à une sorte d'improvisation de deux guitaristes. Lorraine Connors, Mazarine, je pense, il y a dedans, oui, il y avait Mazarine ou pas, et Jim O'Rourke.
O'Rourke, oui, d'accord.
Et c'est un disque relativement récent de 2009 à Van Vineyard, enfin la cour du vin, je pense, de 2009. Enfin, c'est Family Vineyard. Et le titre de l'album est quand même assez fantastique. Moi, je pense qu'il y a des moments où on peut oser faire des trucs comme ça. Two Nice Catholic Boy. Two Nice Catholic Boy.
Catholic Boys.
Oui, mais... Et voilà, moi je trouve que c'est
Two Nice.
Deux jolis garçons catholiques.
Garçons catholiques. Ah voilà. Oui. D'accord, oui.
Et bon.
S'il faisait le mettre en titre d'album. Oui.
C'est bien. Et donc voilà, et tous les deux à la guitare électrique.
Évidemment,
donc...
ce sont eux.
Oui, ce sont eux, enfin je suppose.
Enfin, Jim O'Rourke Cato, oui, pourquoi pas.
Non, mais en fait, c'est de l'humour, je suppose. Hein. Je n'ai pas.
Oui, quoique, bon.
Ouais. J'avoue que là, je cherche. Non, ils s'en foutent. Ils ont mis ça parce que bon, c'était une façon de se présenter. Hein. Je veux dire, bon, il n'y a pas de problème. Et donc, il y a trois morceaux dans cet album. Maybe Paris. Or, Possibly Cologne et Most Definitely Not Cologne. Donc, c'est peut-être Paris ou possiblement Cologne et puis définitivement non, pas Cologne. Voilà. Et on va écouter. Bon, c'est...
Ça date de quelle époque à peu près?
2009,
d'accord.
Oui, c'est assez récent. C'est dans la grande tradition des disques de Mazarine Connors et de Jim O'Rourke. Hein. Donc, cette guitare un peu distordue qui se distant dans l'infini, voilà, le morceau dure 20 minutes, on va écouter.
Ah oui, bien sûr. Oui.
On va écouter un petit extrait, quoi.
Oui.
Mais histoire de se mettre dans l'ambiance, on va écouter un petit extrait qui sera quand même assez convaincant.
Bien sûr.
Voilà. Pas 20 minutes.
Ah non, un petit extrait, on a dit, parce qu'il y en a trop, Sinon, après, il va falloir faire une troisième. Mais non, on en fera pas.
Il faut bien
trois.
Se dire que quand même, on va écouter un petit extrait, mais que c'est une musique qu'il faut écouter quand même assez longuement.
Ah oui.
Un peu comme par exemple, j'ai perdu le nom, mais bon, dans les répétitives.
Terry Riley,
voilà,
par exemple.
Terry Riley. Donc, il faut rentrer dedans, et à partir du moment où on rentre dedans, nous, on va le couper.
Oui.
C'est ça le problème.
C'est fini, voilà.
Alors que c'est là que ça commence à devenir intéressant. Comme Morton Feldman ou des gens comme ça, quoi. C'est-à-dire il faut quand même rentrer dedans. Et donc, c'est pour ça que les morceaux sont longs. Allez, Maybe Paris.
Allez, un apéritif.
Ah, mais il faudrait que je monte le petit truc, là.
Oui, voilà.
Voilà, allez, on y va.
Ah, c'est le bon moment, là, parce que là...
Pourquoi ça se calme ?
Oui, un petit peu, ouais. J'allais dire, c'est le moment du solo de contrebasse. Mais non, il n'y a pas de contrebasse, il y a deux guitares. Et dont on peut répéter peut-être les vrais noms.
Oui, les noms qu'on a donnés, Lorraine voilà. Mazakan Connors et, voilà. et Jim O'Rourke, ouais, il n'y avait pas de problème. Voilà. The Two Nice Catholic Boys.
Too Nice, voilà, ils sont vraiment sympathiques, ils sont même jolis aussi, on peut présenter ça comme ça, et effectivement, c'est une musique, il faut le mettre et puis plonger dedans, voilà, il n'y a pas d'autre terme, on plonge
enfin,
dedans.
Des disques de Lorraine Mazakan Connors, il y en a des tas, hein, comme de Jim O'Rourke, alors si on aime ça, il y en a vraiment beaucoup, et on peut prendre n'importe lesquels, ça sonne un peu toujours pas pareil, mais bon, un peu quand même.
Oui, il y a une couleur. Il y a une couleur, voilà. On peut dire. Voilà.
Ah, alors, c'est très bien.
On remonte à 1941 j'ai peur de faire un petit peu doublure avec ton jazz de tout à l'heure, mais ça s'appelle le jazz de Paris, on l'a dit, hein, c'est quand même un triple album de chez Pathé Marconi. Alors, on va écouter une petite...
C'est la galette épaisse. Oui,
la galette, la tempête sur les cordes, je vous l'avais dit la semaine dernière, quand même, c'est assez tôt. En France, il y a une icône, là, bon, Stéphane Grappelli au violon, et de l'époque, hein, je veux dire. Et puis après, c'est presque fini. Il a fallu presque attendre Didier Lockwood quoi, pour en avoir un deuxième. Non, il y avait aussi violon le troisième.
Jean-Luc Ponty.
Bon,
oui.
Et ben,
jouait avec Mara Vishnoul.
Voilà, Michel Warlop et son septuor à cordes. Allez, Paulette Izoard, Silvio Schmidt, Émile Chavannes. Durand, Ferré, Lucas, allez, avec une contrebasse, c'est la tempête sur les cordes et on est en 1941. Et oui, on est à Paris, donc vous imaginez ce que c'est comme époque.
Un peu le truc pour bien entendre la galette.
Ah oui, c'est joli ça. Maintenant, il y a plein de musiciens électroniques, en musique électronique, qui adorent ce petit son. Ils sont même obligés presque de le rajouter pour que ça donne une petite couleur vinyle. Faut dire que c'est quand même une communauté qui fait revivre le vinyle, quoi. Hein. Donc ils adorent ça, ils aiment ça. Et une jolie petite musique de nuit, là, c'est magnifique. Allez, ça passe trop vite. Moi, j'en ai tellement à mettre que...
Là, c'est bon, à la demande générale. Hein, parce
oui.
Que
l'écrit... Non, ne me dis pas que c'est la chorale.
Si, l'écrit de Paris avait beaucoup plu, là.
Ah oui, là, ça, franchement, donc, ça fait un...
On en remet une petite couche.
Ah, le standard était bloqué, oui.
Oui, parce que Paris s'éveille, c'était quelque chose. Bon, alors là, je prends vraiment quelque chose d'un grand standard de la musique moderne, de variété internationale. C'est Kylie Minogue. Enfin, je ne sais pas si vous voyez à peu près
c'est
ce que c'est.
C'est un grand standard. Oui.
Kylie Minogue, non, tu ne vois pas du tout ce que c'est.
Je ne sais pas, on va le reconnaître.
Oui, c'est une... enfin, voilà, c'est Kylie Minogue, je ne savais même pas. Que ça... I can get you out
je ne peux pas te sortir de ma tête.
Je ne peux pas te sortir de ma tête. D'accord. J'attendais que ça défile. Bon, c'est une chanson très connue, tu vas la reconnaître. Même toi qui ne connais pas Kylie Minogue à première vue. Et il y a une certaine... Finalement, la chorale, dans une certaine mesure, rend presque plus érotique cette chanson que la version Kylie Minogue avec une mini-jupe et puis très sexy. Mais là, il faut voir quand même les petits cris des choristes. Là, c'est quelque chose, hein.
Oui, mais surtout qu'à la radio, on ne sait pas qui sont ces choristes.
On s'en fout.
Oui, non, on va redire, c'est quand même la chorale de...
Ah oui, les cris de Paris.
Et les cris de Paris.
Et c'est dirigé par Jourdain, j'ai oublié son nom, mais c'est Georges ou Christophe. Enfin bon, ça se trouve assez facilement quand même. Il y a un disque, et ce disque s'appelle Encore, et c'est là qu'il y a toutes les reprises de chansons de variété. Sinon, le répertoire en général, c'est Monteverdi et des choses plus savantes.
Oui, plus classiques.
Plus profanes.
Oui, c'est ça.
Yeah.
Non, voilà, mais voilà. Là, tu fais une, on va dire, pas une publicité, en tout cas, une information extraordinaire pour cette chorale qui a quelque chose, quoi. Qui a quelque chose.
Non, après, bon, ils ont un répertoire tout à fait plus classique, en tout cas.
Oui, mais là, effectivement, ils sont bien pris en main.
Il y a une version de Toi, mon toi, alors je ne sais plus, Médéros, je crois qu'elle s'appelait, la chanteuse qui chantait ça, qui est vraiment excellente, quoi, aussi. Donc, bon, je conseille d'aller chercher Les Cris de Paris et le disque Encore.
Encore.
J'ai oublié le label.
Les Cris de Paris, Encore, ça doit suffire quand même. Oui, c'est vrai, c'est déjà de l'information suffisante pour le trouver. Bon, là, je suis un petit peu en train de regarder le catalogue des Big Records, hein, qui a vraiment 52, au moins 52 disques et qui a fait un travail extraordinaire dans les années 68, de 68 à bien plus tard, et qui a représenté l'activité à Paris de la scène musicale. Essentiellement quand même jazz improvisé, musique libre, musique libertaire.
Oui, il y avait aussi les soft machines et aussi...
Oui, la musique, c'est pour ça, on va dire progressiste.
Gong, le premier disque de Gong aussi. Avec des vinyles très lourds encore, alors qu'on commençait à avoir des vinyles un peu souples, là ils avaient encore les grosses galettes.
C'est vrai, oui.
Ils devaient les faire en Union soviétique.
Bon,
les pressages.
Oui, mais d'ailleurs, je ne sais plus où se font les vinyles maintenant, hein, d'ailleurs. Oui,
à une époque, mais maintenant, je pense que bon, il y a des machines un peu partout, et puis elles ont été... Je ne sais pas.
Non, mais c'est assez étonnant, le revival hein, qu'il y a sur les vrais, avec à peu près 18-20 euros, quand même, hein, le prix d'un CD, d'un disque. Et donc, bon, là, bon, j'ai pris l'art ensemble. J'ai effectivement le Celestial Communication Orchestra, qui était à lui seul déjà un symbole, avec Alan Silva, où il y avait tous les musiciens, justement, là, de Paris, qui étaient regroupés. C'était quand même une époque où les grands orchestres pouvaient... un peu par militantisme, il faut bien le dire quand même, hein, pouvait se regrouper et jouer pour quasiment rien.
Enfin, peut-être qu'ils étaient payés normalement, non, le
Celestria. Et là, l'Art Ensemble of Chicago, j'ai amené là où il y a quelque chose de très, très, très symbolique pour Paris, c'est A Brain for the Seine, enfin, je ne sais pas comment on dit la Seine en anglais, hein, la Seine, donc le fleuve, évidemment, qui passe. Et donc, parce que à part le Louvre, la Seine et la Tour Eiffel, je crois qu'on doit avoir fait le tour, en gros, des grands symboles de Paris. Alors, ça dure 22 minutes, et c'est Lester Bowie, Roscoe Mitchell, Joseph Jarman et Malachi Favors qui improvisent. Et c'est un message à notre peuple, hein, la Great Black Music, l'Art Ensemble en Chicago, qu'on n'écoute plus assez souvent, je crois. Et donc, voilà, cette ambiance très particulière, A Brain for the Scene, si on prend là, je sais pas si rigolo ou si c'est ironique, mais enfin, c'est quand même, ça veut dire en gros un cerveau pour la scène.
Qui devait en manquer.
Oui, qui devait en manquer. Ah bon, l'Art Ensemble était par là. Là, c'est enregistré en 1969, je crois, oui. Donc, évidemment, le studio Sarava à Paris, et c'est donc Big Records. Et voilà, Lester Bowie, là, presque on pourrait parler ou lire un poème, en tout cas, plutôt hein, là-dessus. Ah ouais. Allez, je me tais. Breathe! Breathe! Leo! Les quatre compères donc de l'Art Ensemble au Chicago.
C'est avant l'arrivée de Famadou Mbonyi.
Oui, bien sûr. Puisque là, les percussions, enfin, on sent déjà de toute façon ce caractère très éclectique et multi-instrumentiste de chacun des participants là, qui de toute façon, même si ils ont évidemment un instrument de prédilection, le bassiste qui fait gore, le trompettiste Lester Bowie, dont vous entendez à la fois, il parle, il chante, il hurle, il crie. Joseph Jarman, donc c'est le saxo ténor, et Roscoe Mitchell à l'alto.
Baryton,
même contrebasse, rappelle-toi,
avec la petite roulette. C'est d'ailleurs l'époque comme à la radio avec Brigitte Fontaine.
Complètement. Ou alors Je suis un sauvage avec Alfred Panou. Voilà. Et des choses comme ça. Et là, Là, tout à l'heure, on rigolait. Franchement, le catalogue Big, il commence à 529 301. Oui. Tu vois il y a toujours 529 000 avant. Et c'est Don Cherry qui a fait le premier, ça s'appelle Mew, hein, M-U, part. Et puis après, il y a l'Art Ensemble. Alors, je dis très vite.
Il y a Sonra, bien
sûr. Voilà, il y a Archie Shepp, il y a Murray, il y a Sonny Murray, Arthur Jones, il y a Burton Green, Jimmy Lyons, il y a des noms quand même qu'on n'a pas cités depuis Paul Blais, Anthony Braxton, Andrew Cyril, Joachim Kuhn, Jacques Courcil, Gracan Moncourt, Kenneth Terrad. Et là, je ne sais pas si tu le connais, Pierre Mariatan avec Terry Riley. Ça te dit quelque chose, oui, c'est le numéro 27. Et ça se finit, donc, il y a Dewey Redman, Musica Electronica Viva, aussi, qui en fait deux. Sun Ra, deux albums avec Sun Ra, et voilà, et ça finit un Steve Lessie, il y a un gong dont tu parlais.
Oui, mais ça, c'est pas réédité, on le retrouvera jamais.
Je sais pas si ça existe en CD, par contre. Ça, je ne sais pas. Jamais vu, toi non plus. D'accord. Bon, ben alors là encore, on en a une dizaine ou une vingtaine de collectors. Là, il a déjà ici. J'en ai trois ou quatre.
Bon, alors, c'est un peu le tournant de cette émission, parce qu'on va écouter un morceau qu'on avait annoncé la semaine dernière et qui est là quand même.
Le Franck
Vigroux.
Non.
Et Daphine Paris. Alors, je rappelle que Daphine Paris, c'est un cocktail. Donc un tiers whisky, un tiers gin et un tiers pastis, c'est pour l'Ouest. Et on peut faire un tiers vodka, un tiers whisky, un tiers pastis, et c'est pour l'Est parisien. Et donc avec ça, on s'en sort. Mais je pense que Franck Vigroux, je ne pense pas qu'il ait pensé à ce cocktail. Le disque s'appelle Oui, entre parenthèses, Nous Autres, et c'est du label D'Autres Cordes.
Bon, tu en as fait beaucoup.
Oui, mais non, j'ai pas le numéro. Alors.
Ah donc oui, là, d'accord.
Peut-être. Et donc, ce qu'il y avait d'intéressant aussi, c'était que c'était j'ai trouvé ce morceau, et puis j'ai trouvé. Enfin, le morceau, je l'ai, j'ai le CD, mais c'est surtout la chronique de Max Lachaud. Alors, Max Lachaud, c'est un producteur de Canal Sud qui fait l'émission Douche Fraîche un lundi sur deux à 21h30 ou 22h sur Canal Sud. Voilà. Et donc, il faisait la chronique de ce disque. Et bon, je peux lire quand même quelques morceaux. Enfin, c'est juste pour donner un peu l'ambiance. Hein. En effet, ouais. Alors, il parlait du premier disque qui s'appelait Caméra Police, enfin d'un disque précédent. Et cet album, donc Oui, nous autres, peut s'écouter comme une suite logique, mais plus tournée vers une approche émotionnelle et mystique à la fois. Avec la mort comme obsession première, en effet, cet imaginaire mortifère est retranscrit non seulement dans les titres des morceaux, véritable sculpture sonore dont l'angoisse semble l'élément moteur, donc Daphne Paris, mais aussi dans les textures et nappages particulièrement lugubres et angoissants. Bon, vous allez voir, hein, c'est vraiment la mort à Paris, quoi.
Oui, oui, oui. Death in Paris. Mort à Paris.
En tout cas, Franck Vigroux, quelque chose à suivre. Hein, toujours très intéressant.
Oui, oui.
Daphne Paris, Franck Vigroux. Et le disque est tonique comme ça. Hein.
Oui, pour de la mort, c'est très tonique, justement. Mais peut-être que c'est une mort genre un peu zen, c'est-à-dire que ben il n'y a pas de mort, quoi, tout simplement. Puis voilà. Donc il y a un petit passage, et puis finalement, c'est peut-être mieux après la mort.
Ah bien. Alors.
C'est une bonne question. Alors, maintenant, mais alors, très vite fait, parce que c'est presque fini, mais oui, écoute...
D'ailleurs, on va enchaîner les deux morceaux, parce que bon...
Oui, voilà, et Roll Garner, non mais franchement, est-ce qu'on a passé Roll Garner une fois dans l'émission? Une fois, peut-être, en 25 ans, allez.
On est assez pervers pour l'avoir passé, oui.
Oui, c'est ça. Alors maintenant, ben, par contre, April in Paris, alors là, c'est un des grands standards, hein, Duke Ellsberg. Et c'est un enregistrement inédit, en plus, 1946-1947. Et voilà, et Roll Garner, c'est un pianiste qui s'était vraiment signalé, très, très personnalisé par un petit décalage entre ses mains droites et mains gauches, et qui fait qu'il y a tout son charme. Un peu comme Monk s'est signalé avec ses 9e bémol, et puis ses quintes diminuées. Alors, on ne sait plus si c'est des notes ratées, mais c'est ça, c'est son style. En tout cas, et Roll Garner, c'est pareil, il a un décalage, mais... absolument très rythmique, ce qui fait que bon, bah, tous les morceaux sont très particuliers. Il a laissé son style, c'était une vedette, mais énorme, et Roll Garner, mais capable de remplir des énormes salles, des concerts.
Misty.
Ah, aussi, oui, Misty, par exemple. Bon, allez, et puis là, il a composé, hein, Bounce With Me, etc. Bon, qu'est-ce qu'il va donner avec pour April in Paris, qui est comme, on verra.
Oui, enfin, au piano. De grand développement, et puis... bon, pour enchaîner et puis pour terminer avec du rock, parce que bon, on en a manqué dans cette émission, un disque de Believe, Gazul Record, et Tronfou le Loup Blanc.
Ah bah alors, oui,
Bien sûr. Un groupe mythique, effectivement, des années 80, qui est beaucoup moins connu aujourd'hui, parce qu'ils se sont séparés en 86, et ça, c'est le dernier disque de 85, qui s'appelle Face aux éléments déchaînés, et le morceau s'appelle Paris 65, je crois. Ou 60, oui, 65. Je ne sais pas pourquoi 65 d'ailleurs. Alors donc, c'est une.
3 ans en 68, tu peux dire.
Oui, ça doit être ça. Oui. Et donc, le groupe, c'est Ferdinand Richard à la guitare basse, Guigou Chenevrier à la batterie,
ouais.
Jean Thirion qui sera aux orgues et au piano, et puis Bruno Mellier au saxophone. Alors, à plein de moments, ils ont eu d'autres musiciens qui se sont greffés là-dedans, notamment Chris Chanet, qui était le premier saxophoniste du groupe, mais qui était déjà parti depuis 1976. Hein, donc, voilà, il a été remplacé après par Francis Grand, et puis petit à petit, on a eu un groupe qui a évolué. Il a toujours resté Guigou Chenevrier, Ferdinand Richard et Jean Thirion. Jean Thirion qui fait un peu l'orgue et la trompette aussi. Voilà, donc on écoutera Paris 65. Alors avec ce que fait assez facilement Ferdinand Richard, j'ai écouté un concert de Étrenfou le Loup Blanc à Prague, qui est absolument hilarant, parce qu'en plus, déjà qu'il présente les chansons, parce que les paroles, on les entend jamais trop. Hein,
mais oui, bon,
donc déjà qu'il présente les chansons avec une sorte de voix, une scansion très particulière, là, il la multiplie à l'infini, parce qu'il suppose, effectivement, il a raison, qu'à Prague, on ne parle pas trop le français, donc il essaie quand même que les mecs comprennent les paroles.
Bon, ah oui,
ça,
oui.
Ça donne quelque chose de très, très particulier. Donc vous verrez, juste après Errol Garner et après Lynn Paris, Paris 65, qui a quelque chose à voir avec mai 68 quand même.
Et petit détail technique, hein, tu viens de le dire, c'est que Ferdinand Richard, il joue de la guitare basse. Et tu sais ce que c'est
une guitare à 6 cordes.
6 cordes, mais un octave. Plus grave qu'une... C'est pas une basse guitare. Mmh. C'est pas une basse avec 4 cordes. C'est un son de basse, mais c'est un son de basse aiguë aussi de temps en temps.
Ouais, ouais,
c'est-à-dire que c'est une...
Aiguë,
voilà, c'est une guitare basse qui a un octave en dessous. Mmh. Mais 6 cordes. Tout en octave en dessous. Voilà, et c'est un des rares qui jouait de ça, d'ailleurs.
Oui, oui,
et ça donnait un petit son particulier. Allez, on écoute donc Errol Garner et Étrenfou le Loup Blanc. Thank you.
Paris 65. À Paris, en 1965, de nombreux jeunes idéalistes manifestent dans les rues. 20 ans plus tard, certains d'entre eux sont devenus docteurs ou dentistes. La plupart dentistes. Et cette chanson raconte ce que vous ressentez dans leur salle d'attente.
Paris 65, de jeunes communistes bondés sur le grand, sur les murs de l'ambassade des États-Unis. We'll be right back.